Est-ce que tout le monde entend bien d'abord au fond là-bas,
non, ça
va?
C'est lui.
Ouais, moyen. Bon, on va essayer de parler un petit peu fort. Plus on va se voir dans la salle, mieux vous entendrez. Merci. Alors, les questions dont nous allons discuter, dont nous allons débattre aujourd'hui, sont des questions qui concernent absolument tout le monde. Les questions de greffe concernent tout le monde, évidemment des gens qui sont malades et qui en ont besoin, mais tous les autres également, qui sont des gens, nous sommes tous susceptibles d'un jour ou l'autre d'avoir à nous prononcer sur le fait, au moins sur le plan éthique, puisque sur le plan légal cette question est réglée, le fait de savoir si ça nous plairait que certains de nos organes se promènent dans d'autres corps humains. Alors, ces questions de greffe, de la main, de la peau, du visage, du cœur, du foie, enfin d'un tas d'organes différents, sont des questions qui se posent depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, et sont des questions qui restent à élucider, en tout cas sur le plan éthique. Les questions qui se posent, c'est est-ce que ces greffes qui finalement nous appartiennent, ce cœur qui va dans la poitrine, qui n'est pas mon cœur d'origine, à qui appartient-il finalement? Quel type d'organes est-ce qu'on peut greffer? Est-ce qu'on va un jour pouvoir absolument tout greffer, par exemple un cerveau, ce qui rendrait bien des services, pas mal de gens. Sur le plan d'éthique, qu'est-ce que c'est qu'un organe? Est-ce qu'un organe, c'est une pièce détachée dont on peut servir, et qui peut servir à récupérer ensuite, ou à fabriquer, ou à restaurer des êtres humains, ou est-ce que c'est quelque chose qui est intime, qui appartient à un individu? Toutes ces questions sont des questions que les gens se posent tous les jours. C'est les gens qui travaillent autour de ces questions. Ce sont généralement des médecins, et puis des malades aussi, et puis des familles, des malades. Et donc nous avons réuni sur ce plateau des gens qui sont habitués à se poser ce type de questions. À côté de moi, je vais vous les présenter rapidement, et puis ensuite on pourra commencer en parlant ensemble pendant à peu près une demi-heure, et ensuite vous pourrez intervenir comme vous le souhaitez. Voilà, en vous donnant la main, on vous donne un micro. À côté de moi, il y a Emmanuel Crada d'Ordonnave, vous êtes diplômée d'études politiques, vous avez fait l'ENA, et vous êtes surtout directrice de l'agence de biomédecine. L'agence de la biomédecine, c'est une agence qui s'occupe, qui intervient en fait dans quatre grands domaines d'activité, la transplantation d'organes, de tissus et de cellules, la procréation, l'embryologie et la génétique humaine. Et dans le cadre des greffes d'organes, cette agence doit garantir que la répartition des greffons prélevés suit les règles médicales et éthiques en vigueur. Vous veillez également à la sécurité tout au long de la chaîne, vous efforcez que chaque malade puisse recevoir le greffon dont il a besoin. Et donc vous gérez la liste nationale des malades en attente de greffe et également le registre national des gens qui refusent d'être prélevés. À côté de vous, Jean-Georges Prêtz, vous êtes chirurgien. Vous êtes professeur de médecine au Centre hospitalier universitaire de Strasbourg et vous êtes membre du conseil scientifique du Forum européen de bioéthique. Bernard Antori, vous êtes professeur d'épistémologie et d'histoire des sciences et des techniques. Vous avez dirigé l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les sciences et la technologie. Vous êtes vice-président de sciences en société de l'Université de Strasbourg qui développe actuellement une cellule d'expertise sociotechnique dont le but est d'inscrire l'université au cœur de la cité. Par ailleurs, vous avez l'habitude de nombreux débats sur ces questions, et ce sont des questions qui vous intéressent, notamment sur les organismes génétiquement modifiés, les ondes électromagnétiques. Le fait de parler avec les gens, c'est quelque chose qui vraiment vous intéresse. Jean-Michel Bernard, vous êtes professeur, urologue de formation. Vous travaillez dans le service d'urologie, de chirurgie, de la transplantation à Lyon, à l'hôpital Édouard Herriot. Et vous êtes un des pionniers de la transplantation. Vous êtes connu pour vos transplantations de pancréas, de mains, de bras. Et vous connaissez très très bien ces questions. On se souvient entre autres, peut-être que vous en souvenez-vous, d'un Néo-Zélandais qui s'est fait greffer des mains et qui ensuite a demandé de se faire amputer une main. Et qui ensuite a demandé de se faire amputer. C'est quelque chose qui est au cœur des questions que nous posons, à qui appartiennent ces organes. À côté de vous, Jean-Luc Mancy est écrivain, il est philosophe. Vous avez longtemps enseigné à l'Université de Strasbourg la philosophie. Vous avez beaucoup travaillé avec Jacques Derrida, Philippe Lacouladard. Et vous êtes énormément intéressé aux questions du corps bien avant que les vôtres vous posent problème. Vous êtes greffé du cœur depuis pas mal d'années maintenant. Et donc vous avez vécu à la fois de l'extérieur en tant que philosophe, observateur, ces questions qui sont liées au corps, et évidemment de l'intérieur aussi. Et à côté de vous, le grand témoin de cette rencontre, Patrick Guillot, qui est tout simplement directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui fera une sorte de synthèse. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous, je pense aux étudiants lycéens, vous avez des synthèses à faire, vous écouterez bien à la fin, il interviendra et vous fera un peu le cours. Je vous propose de commencer par le témoignage de Jean-Luc Mancy. Vous avez un micro, Jean-Luc, devant vous, si vous voulez bien. L'idée, c'est de savoir un petit peu, avant d'avoir des problèmes physiques, quel type de questions vous posiez relativement au prêtre. Ensuite, est-ce que ce questionnement a changé, probablement, mais comment il a changé, comment il a évolué au fil du temps, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à ce questionnement. Alors d'abord, avant d'avoir des problèmes de santé.
Alors, pardon, je ne m'attendais pas à cette question. Avant d'avoir des problèmes de santé, je n'ai posé aucune question. J'ai entendu parler du grec, oui, parce qu'il y a eu c'était la période héroïque des premières grecques du cœur, avant la cyclosporine, puis avec cyclosporine, non. Mais non, je crois que je n'ai posé aucune question. Simplement l'idée, l'image de la Grèce que j'avais, quand on m'a annoncé qu'il fallait me greffer, c'était une image terrible, en tout cas. L'ouverture de la cage thoracique, etc. Mais donc, et au moment où il a fallu me greffer, c'est-à-dire au moment où j'allais passer sous le scalpel de M. Kretz, voilà, parce qu'il s'est mis tout raqué, moi j'étais assez terrible. Et ça, c'est normal, c'est-à-dire que ça n'est pas très différent de ce dont il s'agit de n'importe quelle opération, mais c'est vrai que toutes les opérations vont faire découvrir largement la partie du visage. Bon. Et je sais que l'axe de votre question n'est pas là. Il est dans ce que vous avez déjà une nouvelle fois prononcé à qui ça appartient. Et alors là, je dois dire que il y a 22 ans que je suis greffé. Je viens d'entendre mon voisin vient de me parler d'un greffé de 30 ans. C'est bien, c'est chaque fois que j'entends des âges plus avancés en grec, ça me redonne l'espoir. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est à qui appartient. Alors là, je tiens à faire une réponse très soulignée, très forte. Que il est dans ma poitrine. Et il appartient à tout le monde. Il appartient à la vie. Aucun organe n'appartient à quelqu'un. Mon corps ne m'appartient pas. On n'est pas dans une affaire de propriété. Je crois que c'est essentiel. Et je crois que s'il y a tant de problèmes qui tournent autour de ça, c'est parce que nous avons une idéologie, une fantasmatique de la propriété qui gâte, qui pourrit un peu tout à l'avance. Ça peut être une fantasmatique de la propriété matérielle, c'est-à-dire à moi, pas à personne ne me le prendra, c'est aussi une fantasmatique plus subtile et plus pernicieuse, je dirais, de la propriété de son corps. Parce qu'en effet, je ne suis rien sans mon corps, je suis mon corps, mais je ne l'ai pas, je n'ai pas pour autant une propriété. Et je peux... J'ai pensé une chose très simple pour vous. Si on avait greffé du foie un étrusque du 5e siècle avant Jésus-Christ, s'il avait greffé du foie, cet étrusque aurait eu beaucoup de raisons de penser que peut-être ce foie qu'on lui avait greffé était de l'identité d'un autre. Parce que pour un étrusque, le cœur n'avait pas beaucoup d'importance, le foie avait une très grande importance. C'est avec le foie que l'armistice prévoyait l'avenir. Donc le cœur a dans notre culture une place symbolique telle qu'on y attache de l'identité de signification. Il n'y a pas plusieurs raisons d'attacher une signification au cœur qu'aux gros orteils.
Sauf que sans gros orteils, je vais aller, sans cœur, ça va moins bien.
Ah, bien sûr. Absolument pas. Je ne pense pas au bonheur du tout tous les matins. J'y pense quand l'opinion publique me force à y penser. Par exemple, l'an dernier, il y a eu un documentaire à la télévision sur la grève du cœur. J'ai trouvé que ce documentaire, comme bien d'autres choses que j'ai vues à ce sujet, était un petit scandale. Parce que tout tournait autour de la personnalité du donneur, celle du receveur. Il y avait une jeune fille charmante à qui on disait, pour vous, votre donneur, c'est qui? Elle répondait d'une voix suave, c'est mon ange gardien, il est là tous les jours. Bon, moi, je veux bien qu'elle pense ça. Je veux dire, ça n'est absolument pas sa greffe du cœur qui fait que cette jeune fille pense son donneur comme son ange gardien. Si elle n'était pas greffée, elle penserait à un autre ange gardien. Vous voyez, un tout petit mot, parce que moi, je ne posais pas la question par hasard, je la posais silencieusement, simplement parce que j'ai un copain qui est transmetteur, qui a un confrère, un médecin, qui est transplanté depuis 30 ans du cœur, et puis dès tous les matins, quand je me rase, je me suis approprié, alors pas imprimé, propriété, puis approprié le cœur, moi, je suis assez volontaire, vous voyez, mais je pense que tous les matins, même si je sais que ce cœur est le bien, quoi qu'il a. Donc c'est un peu ambigu.
Mais moi, je suis. Alors, c'est pas ambigu, non, c'est que lui, il pense comme ça, moi, je ne pense pas, moi, je suis. Il y a une gratitude profonde, en permanence. Au lendemain, ma gratitude, peut-être le lendemain, le surlendemain, j'ai demandé, peut-être à vous, je ne me rappelle plus, enfin, un des médecins qui étaient autour de moi, alors que je savais très très bien tout le protocole qui entoure la grève, j'ai demandé si je ne pouvais pas quand même faire parvenir un message à la famille du donneur. À quoi on m'a répondu, vous n'y pensez pas, je sais qui, oubliez ça. D'ailleurs, avant, là, je crois bien que c'est vous, vous m'avez raconté l'histoire de quelqu'un qui avait découvert qui était sa donneuse et qui avait déposé une fleur sur sa tombe tous les jours. Bon, ça c'était ça, c'est un peu mis en garde contre. Je conçois que. Je conçois très bien que votre ami ait cette pensée, mais qui ne l'a pas comme une pensée fantasmatique. Moi, je pense aux gens avec lesquels on se trouve devant des formations de fantasmes. Il y a une comédienne française qui s'est permis de publier, il y a maintenant 2 ans, qui est grevée du cœur, un livre dans lequel elle raconte que le mari de la femme dont elle a eu le cœur l'a reconnu, ses sentiments de sa femme, ça leur est peut-être arrivé, tout le monde peut être borderline, elle n'est pas en train d'être greffée pour ça, mais on ne vient pas nous raconter des histoires de ce genre en faisant croire que le cœur du jeune homme est porteur des
actes. Mais c'est faux, le greffé de Marseille, le premier greffé du cœur, Istria, d'une jeune Istria, a connu, parce qu'à l'époque, c'est ce que pour la première greffe de visage, pour la qualité des greffes de main, des familles sages, le patient a eu la même démarche, dire est-ce que je peux entrer en contact et tout, et Vitria a fait, et sauf que par hasard, la famille du donneur était une famille auvergnate, moi je suis en Auvergne directement, et il vient passer ses vacances avec lui. Il avait installé avec eux un drôle de relation qui faisait des tas d'interrogations. Voilà.
Oui, mais là, c'est justement le donneur, c'est très évident. Et dans le cas du donneur vivant, quelquefois ça peut être
le donneur.
Le donneur, monsieur Chitrien, a une personne d'origine de Vernac et il a développé des relations extrêmement étroites et extrêmement. Mais c'était le fait.
L'histoire des relations entre le greffé et le donneur pour le cœur, c'est quand même très compliqué parce qu'imaginez-vous que pour un malade qui a été opéré, la date anniversaire de son opération, en général, il s'en souvient. Et c'est l'occasion, pour quelque chose l'opération, si c'est une grosse opération, il s'en souvient bien. Pour un greffé du cœur, c'est quoi la date anniversaire? C'est la Toussaint? Vous imaginez ça? Que tous les ans, à la Toussaint, le gars qui a été greffé du cœur va aller mettre des fleurs, je ne sais pas où, enfin,
Moi, je n'ai pas de date anniversaire, même pas la mienne. Sauf que, comme c'était à cause des Pâques, je sais quand même une Pâques. C'est que Pâques, c'est joli, parce que c'est avec la résurrection.
Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une grosse différence entre les patients qui reçoivent des organes comme le rein, le foie, sur lesquels on ne projette pas quelque chose de particulier. Les greffiers du cœur, et ça, c'est de l'expérience vécue, plus on trouve beaucoup de greffés du cœur, c'est pas juste, mais beaucoup de greffés du cœur, dans les semaines qui suivent la transplantation, ont quelques problèmes identitaires, qui se manifestent de manière diverse, mais on connaît.
connaît bien ça. Et ça, ça se passe à la longue, hein, ils finissent par se dire, bon, c'est cœur, il est droit, pointé, il marche. Alors que pour le rein, par exemple, la position du malade, très souvent, c'est de dire, j'ai un organe malade, on en propose un, je le prends, point. C'est comme, c'est un peu, c'est mécano, alors que pour le cœur, la projection qu'on met dans l'organe, sur l'âme, les sentiments, l'amour, etc., comme les malades qui me disent, quand je perds un malade du cœur, je dis, comment vous l'avez trouvé mon cœur? Je leur dis toujours la même chose, je leur ai dit, j'ai trouvé plein d'amour. Point. Bon. Enfin, ce qu'ils veulent.
Alors, je pense que ce qui vous sépare, et c'est aussi, parlez bien en micro, je pense que ça marche, ce qui vous sépare, vous êtes très loin de Jean-Luc Nancy. Vous comprenez bien que c'est difficile de faire admettre l'idée que mon corps ne m'appartient pas, qu'il appartient à la nature. C'est un postulat de départ auquel un philosophe peut arriver. La plupart des gens, en particulier quelqu'un qui est appelé à donner un organe, qui ont dit de toute façon, ça n'appartient pas, c'est une question qui peut se poser, est-ce que mon corps m'appartient, qu'il appartient à la nature, et qu'on met beaucoup de temps à arriver peut-être à une réponse, vous n'êtes pas à cette réponse depuis
deux ans. Non, attendez, permettez-moi, depuis 22 ans, à chaque contrôle, nous avons régulièrement, mon service de la maître, c'est cardiologie maintenant, je rencontre des greffés, depuis la pause, quelques occasions de l'association des greffés, je rencontre jamais, cette question ne surgit. J'ai vu surgir beaucoup de questions. Questions de possibilité de travailler. Et toutes les questions qui sont liées à tout le devenir médical d'un greffé du cœur qui peut être très lourd. Bon, moi, j'en ai eu un d'ailleurs particulièrement lourd. J'ai chopé tout ce qu'on peut avoir jusqu'au lymphome des greffés, bon, en passant par le sauna, par le cytomégalovirus. Plusieurs fois, et ça dure toute la vie, c'est pas fini, on est toujours. Bon, alors là, on vit dans une sorte de réseau chimio-chimique, bon, qui est très important, mais qui n'empêche pas de vivre. Non, pas du tout. Mais la question de l'identité, je veux bien croire ce que vous dites, que dans les premières semaines, bon, ça se tourne. Moi, je suis assez limité à une émotion d'un jour, je crois. Mais ce n'est pas, je vous assure, ce n'est pas du tout parce que je suis philosophe de métier. Parce que je ne suis pas que arriver à une conclusion. Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Il faut revoir rien. Je pense à un greffé. Un greffé qui est de Strasbourg, qui est mort parce qu'il était bouché. Et on lui avait interdit de retourner dans la chambre froide. Il m'avait dit un jour de contrôle. Il m'avait dit, oh, ça m'emmerde, parce que mon fils, il a repris l'affaire, mais quand même, c'est dur, quoi. Alors, vous savez, moi, de temps en temps, j'y vais dans la chambre froide, quelque part, et après, il a mis des morts. Bon. Vous voyez, cet homme, disons, je prends un exemple, alors, pour en opposer un autre, mais moi, je vous assure que pour l'expérience que j'ai, cet homme est plus représentatif que la majorité des greffés, peut-être au-delà des premiers temps, que la femme qui raconte que l'ancien mari de sa donneuse est tombé à mon adolescence. Non, là, un tout petit mot pour rebondir sur ce que vous faites, parce que je crois que ça a beaucoup de signification. Moi, j'ai l'expérience des greffes abdominales, le poids de rein de pancréas, et des greffes composites, c'est-à-dire les reins du visage. L'expérience abdominale, pour le foie, j'ai le sentiment que ça pose trois problèmes. Pour le rein, quand je discute avec les patients, ils disent, ah ben, au moment où je commence à pisser, quand je pissais, ça me dit quelque chose au départ. Pour le diabétique, qui a une greffe de pancréas, je n'ai plus d'insuline, mais il s'adapte très rapidement. Mais par contre, il y a un très chaleur violent avec le cœur, moi je racontais mon copain qui dit, je pense, ça va arriver. Et puis, pour les greffes composites, non, la main est bien plus forte que le visage aussi. Bizarre, c'est plus pareil qu'on en parlera sans doute. Ah oui, ben alors là, je crois que ça paraît absolument évident, parce que c'est la différence entre ce qui appartient au corps visible et ce qu'on se dit à l'autre.
Apparemment. Un terme extérieur. Il y a un commandant.
Évidemment, je ne discute pas du tout. Je comprends que quelqu'un qui se trouvait embarrassé par les noms qui semblaient étrangères. Il n'y a pas très longtemps, j'ai terminé à faire un dialogue qui a été publié ensuite avec M. Lantier, qui était le visage. Eh bien, je comprends très très bien que quelqu'un qui est greffé du visage, c'est un problème.
Je vais rajouter un degré de complexité peut-être encore plus, qui concerne cette fois-ci les greffes de cellules. Vous savez que quand quelqu'un est malade d'une, par exemple, d'une leucémie, on peut le soigner dans certaines indications en faisant une greffe de cellules, donc avec des donneurs volontaires de voies osseuses ou des sangs placentaires dans lesquels on trouve des cellules souches et on tue finalement toutes les cellules qui fabriquent le sang chez le malade et on les remplace par les cellules du donneur qui viennent s'installer dans ces os et qui vont se mettre à produire du sang de bonne qualité et on guérit la leucémie. Et bien dans ce cas-là, alors même que ce ne sont que des cellules, alors même qu'elles ne sont pas visibles, le vécu est très difficile parce que parfois on change de groupe sanguin. Et puis parfois, et je dirais presque dans la majorité des cas, il y a une maladie qui s'installe parce que ces cellules ont été capables de tuer la leucémie, mais du coup elles se mettent à vous attaquer vous-même. Et c'est ce qu'on appelle la maladie du greffon, c'est-à-dire les cellules qu'on vous a données, contre l'hôte, c'est-à-dire vous-même. Et vous avez au cœur de vos os l'identité de quelqu'un d'autre qui vous a guéri, mais qui vous rend malade. Et le problème identitaire dans la greffe de cellules est un problème très lourd, pour lequel les psychologues et les greffeurs travaillent ensemble. Il y a une association qui s'est créée qui s'appelle l'association Chimère, parce que les gens qui comme ça sont devenus un peu eux-mêmes et un peu un autre se sentent chimères. Et ils se sentent beaucoup, beaucoup plus chimères que dans la greffe d'organes, où effectivement on peut focaliser sur un organe. Et éventuellement dans une civilisation comme la nôtre, où le cœur est porteur des émotions, des affects, etc., remorquer beaucoup sur le cœur. Et dans d'autres civilisations, ça sera le foie. Et les mains.
Oui, un tout petit mot quand même, parce que c'est très bien de s'approprier la propriété de la tête, etc. Mais il y a quand même aussi d'autres mécanismes qui se produisent. J'abordais la question de la greffe de main. Bon, quand vous venez de greffer une main, elle est insensible, elle ne bouge pas pratiquement pas, et il faut attendre que les innervations soient réapparues. Quand le patient montre ses mains, je fais un peu de tutoriel, ses mains à l'infirmière, il dit comment vous trouvez les mains, madame l'infirmière, quand la sensibilité est là. Et quand la sensibilité est au bout des doigts, il dit comment vous trouvez mes mains, mes mains. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, à ce moment-là, le grand nom, moi, je fonctionne avec des psychiatres, une équipe, psychologue, psychanalyste, psychiatre normal. Donc, et les types se posent des questions fabuleuses. Or, en réalité, ce qui arrive, c'est que l'image de la main qui a disparu du cerveau, du cortex, moteur et sensitif, après l'amputation, est réapparue à ce moment-là. Donc ça veut dire que vous pardonnerez propriété et appropriation, il y a eu une véritable appropriation de la main, et à partir de ce moment-là, c'est sa main. Même si il y a un phénomène de déni, il sait que c'est la main d'un homme qui ne peut pas y penser, et que le cerveau a deux parties, l'une qui pense c'est ma main, l'autre qui sait que c'est la main d'une personne qui est, mais qui sait la personne, c'est ma main qui donne. Donc c'est quand même beaucoup plus complexe que ça, et la notion d'appropriation d'un organe est...
Ah non, encore une fois, est-ce que toutes ces questions...
Encore une fois, je crois qu'il faut distinguer radicalement le corps apparent du corps inapparent. Ah non, bien entendu. Parce que précisément, je me renvoie à moi-même une image, soit de mon visage en miroir, soit de ma main, etc. Soit c'est la question de l'air du sein et la question du sein. Ah, et le visage dans le miroir, si je vois dans le visage dans le miroir un visage qui n'a jamais été le mien, je pense que ça en prend autre chose. Parce que je ne vois rien du fait. Non, mais. À propos de tous les organes internes, du cœur en particulier, il règne ce que j'appelle vraiment une idéologie de la propriété du corps qui ne repose sur rien d'autre que l'idéologie de la propriété en général. D'ailleurs, je suis commune très brièvement. Très brièvement. Par exemple, nous on s'est rendu compte, notre équipe, hein, parce que l'équipe Bruxelles à Lyon, c'est la même équipe, hein, d'accord. Et c'est nous qui avons fait les premières, et on a un certain nombre de patients. On s'est rendu compte avec une grande surprise que c'était beaucoup plus difficile de s'approprier une main que le visage. Parce que les mains, vous les avez sans arrêt devant les yeux. Le visage, par contre, c'est tellement défiguré, tellement non sur la vente que vous n'allez pas sortir, et vous retrouvez un visage qui est dans une main que votre yeux, et vous êtes tellement content d'avoir ça, mais il faut regarder dans la glace pour voir que les mains, vous les observez sans arrêt.
Bernard Encore, est-ce que ce type de questionnement a évolué depuis le début des transplantations? Est-ce que ce sont toujours toujours les mêmes questions récurrentes qui viennent chez les greffés, que vous entendez autour de vous. Et comment est-ce que vous y répondez? Qu'est-ce que vous dites? Mon cœur ne marchait pas, alors quand on a un qui marche, il ne va pas nous casser les pieds pour savoir si c'est le tien ou pas le tien. Comment on répond à ça? Est-ce que ce questionnement d'abord a évolué?
Il est assez difficile d'intervenir à ce débat entre médecins greffeurs et patients greffeurs. Parce que comme vous voyez,
c'est passionnel.
Je vais me situer sur un autre registre parce que je suis ni médecin ni greffé, donc je vais prendre la casquette qui est la mienne, qui est celle d'un psychologue, avec une petite culture d'anthropologie historique. Alors, la question des greffes, c'est la question de l'identité, parce que évidemment, c'est à peu près 100 pages.
Il y a un problème. Je vous propose de vous parler comme ça.
Oui.
D'accord? Vous décollez pas.
Bon, alors.
Monsieur, je viens de dire maintenant.
Ok, c'est bon.
Le barbu.
C'est bon, non, vous m'entendez? Oui. Donc, j'ai un point de vue qui est un petit peu différent. Je dirais que cette question d'identité, qui maintenant touche l'image du corps, est une résultat d'une très très longue histoire, hein, que je pourrais appeler la question de la vulgarisation du sujet. Le sujet, on pourrait remonter à la Grèce ancienne pour montrer comment à deux reprises on a eu une notion de sujet qui était un centre unique, puis plusieurs centres, puis tellement de centres que la notion de centre a perdu son sens. Et finalement, là, on arrive à un sujet qui s'identifie à son corps. Je suis mon corps, je n'ai pas mon corps. Alors, cette question de l'identité du sujet prend un tour un peu particulier aujourd'hui dans la mesure où il n'y a pas seulement des greffes qui consistent en des échanges organiques, si vous voulez, qu'on peut imaginer être pratiqués, mais il y a aussi des greffes qui peuvent faire intervenir des robots. C'est-à-dire, je vous raconte une petite histoire pour illustrer ce que je veux dire. C'est l'histoire d'un dénommé Harold, qui apparaît avec une nouvelle récente, qui s'appelle Pièce de rechange. Harold est métaphysicien, et c'est ses deux passions de la vie. Et un matin, il découvre qu'il est atteint de prosopagnosie, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît plus le visage, en particulier donc, le visage de sa femme. Il reconnaît le sien, il reconnaît tout ce qui l'entoure, mais pas le visage de sa femme. Ce qui lui pose une question métaphysique, parce qu'on lui dit, mais il existe un certain docteur, qui s'appelle Changé, intéressant, qui est associé à une firme coréenne qui fabrique des robots qui peuvent remplacer les synapses, la vie, etc. Alors, et pour moi, une question qui se pose, c'est est-ce que, si je me suis opéré, est-ce que je serai encore moi-même? Première question. Deuxième question, lorsqu'on va m'opérer, on va faire un schéma de mon câblage cérébral. Est-ce qu'on pourrait utiliser ce câblage cérébral pour fabriquer un autre qui serait identique à moi? C'est-à-dire qu'il y aurait le même cerveau, etc. Alors, il hésite beaucoup et il va voir ce fameux docteur changer qui lui dit non, tout ça, ce sont des blagues, ne vous inquiétez pas, c'est comme le vieux bateau. Bon, Roger Benoît a raconté aussi diverses histoires, le bateau de Thésée, c'est une vieille histoire qui consiste à se dire quand on a un bateau et qu'on le répare en changeant des poutres, à mesure, jusqu'à quel point vous continuez d'être le même bateau. À partir de quand ce bateau est un autre bateau. Bon, c'est la question qui se pose, et le docteur change lui dit que vous serez même, un petit changement, etc. Donc il s'est opéré, et à la sortie de la clinique, il y a un petit peu d'un sentiment de malaise. Il est à Bruxelles, il se dit il a connu bien cette ville, il a quelque chose, il était à Bruxelles, il a vécu 25 ans. Et quelque chose, cette ville le dérange, et puis ils vont de l'avion parce qu'il est à New York. Et au moment du collage, presque sert un verre de champagne. Et à ce moment-là, il se rend compte qu'il a perdu le goût. L'odorat, pardon. Il peut goûter encore le champagne, mais il a perdu l'odorat. L'hôtesse, les hôtesses d'habitude, s'en font, hein, en général, dans les avions, elles sont parfumées avec Dior, Chanel ou autre chose. Et elle ne sent absolument rien. Et il demande à ce moment-là un verre de vin rouge, parce que c'est sa passion. On lui sert bon sa religion, et il a perdu complètement l'odorat, il le sent humain. Et c'est ce qui le rassure. C'est-à-dire qu'il se dit, très bien, on va remplacer un petit bout de cerveau, j'ai eu peur, mais
je continue d'être moi et singulier parce que personne ne peut ressentir cette perte d'odorat qui la mienne. Autrement dit, sans identité, il la rétablit et cela le rassure grâce à une perte. Voilà une question quand même qui pourrait être posée aux philosophes qui me semble intéressante. Évidemment, ce n'est pas la même chose, ce type de greffe un peu de transition pour l'instant, que les greffes dont parlait, mais je pense que ça radicalise un peu la question d'identité encore plus, puisque là, il s'agit de se transformer en quelque chose d'autre, à la limite, en un robot, parce qu'un robot qui serait constitué de pièces absolument identiques à